Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique, tous les vendredis sur Radio Canu, en direct, de 13h à 14h. Alors, aujourd'hui, je reçois Gaëlle Joly-Giacometti. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Emmanuel.
Alors, Gaëlle, tu viens nous voir parce que tu es en train d'écrire ta première mm-hmm. pièce de théâtre. Et du coup, je crois savoir que c'est en cours de construction, que c'est le début du... Enfin, que le travail est déjà bien entamé, mais que l'écriture n'est pas tout à fait achevée.
Oui.
Alors, est-ce que tu veux bien nous parler du sujet de ta pièce ?
Oui, alors tu es bien au courant déjà parce que tu participes à ce projet, Emmanuel. Mmh. Il s'agit d'une pièce de théâtre physique et poétique. Il ne s'agit pas ni d'un one-woman show, ni d'un spectacle spectaculaire. Donc ça va être sur une forme peut-être courte, sur la thématique en fait de l'existence. Alors ça paraît comme ça un petit peu large et conceptuel, mais c'est plus précisément sur la fameuse crise existentielle, un sujet commun à tous, ce moment où on se pose la question du temps qui passe, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, des questionnements sur le sens qu'on veut donner à sa vie. Cette période-là, cette crise-là, souvent abordée et résolue sur un plan de développement personnel, de psychologie. Et je trouvais ça pas forcément suffisant comme inspiration, et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer d'écrire quelque chose sur cette thématique là mais en l'abordant avec des concepts philosophiques. Alors j'ai pas trouvé l'idée toute seule, j'avoue. J'ai lu aussi des textes, deux ouvrages de François Julien, qui est un philosophe contemporain. Ces deux ouvrages sont Vivre en existant et Seconde vie. Et en fait je vais essayer de retracer très rapidement son propos sans le trahir. En fait, il nous parle donc de ce que peut être la vie, donc le quotidien, les contraintes, ce que c'est aussi que le début de la vie avec sa culture, l'éducation, l'ornière, le sillon dans lequel on peut être en début de vie, et ce qui se forme, se transforme silencieusement tout au long de sa vie, l'existence, le fait d'exister, être hors de ce quotidien, donc devenir autonome, prendre un peu de liberté, se décoïncider du vécu. Donc voilà, c'est aussi, en parallèle, on peut parler, c'est son deuxième ouvrage, de passer de la première vie à la seconde vie. C'est son seconde vie qui reprend cette première vie, mais avec l'expérience, avec de la lucidité. Et on peut se dire voilà, que cette expérience, cette lucidité, cette seconde vie, on en conclut que plus on avance dans la vie, plus on commence à commencer à vivre. Voilà. Et que ce processus est progressif, sans rupture. Voilà. Donc c'est cette idée-là. Alors ça peut paraître un petit peu conceptuel, mais voilà, ça parle un petit peu de ce passage-là. Et dans cette pièce, on va particulièrement s'attacher à l'angoisse que peut être de se rendre compte qu'on existe, ce moment là où on a cet événement sonore où on se dit oulala, mais je suis dans cette vie, elle est à moi, elle est unique, il me reste ce temps à vivre. Donc ça porte une certaine exaltation puisque finalement tout est possible, il y a une sorte de vertige, puis une certaine angoisse parce que est-ce que je n'arriverai pas à utiliser tous ces possibles si j'avais pas l'énergie d'utiliser tout ce potentiel, si ça me submergeait, ce qui rejoint aussi un peu des travaux de, je crois, de psychologues et de sociologues sur la fatigue d'être soi, à un moment une sorte de surmenage, de vouloir absolument créer sa vie. Voilà, ça paraît très conceptuel, mais ça va être beaucoup plus ludique, puisqu'il y aura de la musique, de la vidéo, un texte poétique, voilà.
Ok, mais on n'a rien contre les spectacles conceptuels, et justement, enfin, je trouve ça intéressant que ça parte d'une vraie idée. d'un vrai travail d'idées, de réflexion, de,
oui,
de pensée,
oui.
Avant de mettre en acte et...
Ça oui.
me semble un travail normal d'écriture et de...
Oui, puis ça permet de prendre de la hauteur sur une expérience personnelle, parce qu'effectivement, moi, cette crise de l'existence, je l'ai vécue pleinement en étant même terrassée pendant plusieurs années et prise de crise de panique d'exister trop. Et il y a un moment où j'étais submergée par ça, à plat, où je prenais de la hauteur et la création permet de prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc c'est lié aussi à un cheminement personnel qui a été étouffé par des lectures.
Et tout à l'heure dans la présentation, tu disais que ça n'avait pas vocation à être un spectacle spectaculaire. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Bah disons, c'est parce que je veux pas de quiproquo avec le public qui viendra dans un an peut-être quand on aura terminé le processus de création. Je ne veux pas que les gens s'attendent à une pièce avec des personnages qui sont en interaction. Pourquoi pas des amants dans le placard ? Moi j'adore les pièces avec les amants dans le placard, mais bon là il y en aura pas. Je dois l'avouer. Donc en fait, ce que j'aimerais pouvoir faire vivre au public, c'est que le public puisse vivre avec le personnage une émotion, une sensation, un passage par un texte poétique, par une chorégraphie, voilà, et un univers sonore et lumineux qui va avec, voilà.
Et pourtant, il y a un personnage.
Et pourtant, il y a un personnage qu'on suit, parce qu'il faut bien que ce soit incarné. Et j'espère que ce personnage permettra au public de s'identifier. Hein.
Ok, merci beaucoup. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'on lise un premier extrait de ton texte.
Oui, je veux bien, merci.
Alors, cet extrait est situé au début de la pièce, presque à l'ouverture. Ça commence par un emballement. On sent dans ses veines que le temps est compté, que même si rien ne reste, ce qu'on peut y laisser est crucial. Ça circule dans les veines, ça ramasse les muscles, ça contracte le cœur, ça imbibe les pensées et elles deviennent confuses, toutes consacrées à cette urgence. On compte les semaines à la peine, les semaines de congés payés, les heures sup, les heures récup, le temps consacré aux autres, le temps pour soi. On devient l'exécrable comptable de sa vie. On voudrait raccourcir les nuits, accélérer le temps, les contraintes, abolir l'inutile. On voudrait avoir du temps devant soi, des décennies, sans vieillir d'une nuit. Mais on sent bien l'erreur. On éprouve l'épuisement de cette course. On sait bien notre faiblesse face à l'inéluctable. On voudrait être sage, calme et serein. On s'y exerce, on ferme les yeux, on médite. On inspire, on expire, on va voir des docteurs du temps qui passe. Mais quel ennui! Une vie de labeur à vivre, une vie sans exister. Où est l'issue de secours? L'issue de secours à l'insu du compte à rebours. Je meurs ainsi. On dirait la vie repue, à l'abri de la vie. Sortir de l'ornière. Cette fois-là sera la dernière, à l'instant. L'instant n'est plus le même, rempli de l'avant, l'ensuite s'agrandit à l'instant, à vie. Chaque corps est un plumeau de cils avec la force d'un tronc. Parcours la ville, traverse les ponts. Chaque matin, apprendre ou à laisser, apprendre à bras-le-corps. Vibrer de chaque corde à mon arc, de part et d'autre de ce corps sensible aujourd'hui. En vertige de ce qui se vit maintenant, ces vers s'agitent à temps. Embrasser, de brasser de feuilles d'arbres jaunes arrangées sur le sol orangé. Caresser, carrément câline, les peaux molles, les peaux tendues, les peaux d'homme, peaux d'inconnu, les paumes de main. Choper. La lumière matinée, patinée, grêlée, effilée en toile d'araignée. Et goûter le ciel à la passoire, essorée, avaler la pluie en pleine mâchoire. Enjamber l'horizon. ne plus attendre. Tes bras, en inventer d'autres, à entrevoir, entrouvert, ne plus craindre le désespoir. Manger à pleines dents, manger du regard suspendu aux lèvres d'un amant. Mâcher les mots, ingurgiter le jus, la gicler, gifler, cibler de songes perdus. Baiser à blanc, à bloc, la simplissime sciure, le sublime abîme de l'un à l'autre. Je veux tout de la vie. Être une femme et aussi un homme, avoir beaucoup d'amis et aussi la solitude, travailler énormément, écrire de bons livres et aussi voyager, m'amuser, être égoïste et aussi généreuse. Vous voyez, ce n'est pas facile d'avoir tout ce que je veux. Or, quand je n'y parviens pas, ça me rend folle de colère.
Merci Emmanuel, parce que quand on écrit un texte tout seul chez soi ou dans une brasserie, c'est à plat. Et alors quand je t'entends lire ce texte, ça prend toute sa mesure. Juste préciser que la toute dernière partie qui commence par « Je veux tout de la vie » est écrite par Simone de Beauvoir, qui est une des personnes qui a inspiré aussi ce travail-là.
Alors du coup, tu as dit que pour dans le projet, que tu avais beaucoup lu, que du coup tu t'attachais à la pensée d'un philosophe. Quelles sont tes influences? Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler plus de ce philosophe-là? Et ensuite, quelles sont les différentes influences qui ont nourri ton texte?
Alors j'avoue que ce philosophe-là, au départ, sincèrement, la philosophie, c'est vraiment pas mon domaine. J'en ai très très peu lu. Là, j'avouerais que c'est une rencontre au hasard d'une librairie. Je cherchais un autre ouvrage et je suis tombée sur un autre ouvrage de lui qui s'appelle « Je crois près d'elle » sur l'intimité, sur la distance et l'intimité. Je trouvais ça intéressant, je l'ai lu, j'ai trouvé ça, ça m'a un petit peu exaltée. J'ai fait des recherches sur ce philosophe.
Donc tu peux nous rappeler le nom et le prénom?
Donc François Julien.
Oui, merci.
Voilà. Je vois dans sa bibliographie qu'il a écrit « Vivre en existant » et je me dis mais voilà un signe. C'est exactement ce dont je veux parler, « Vivre en existant ». Et il y a « Seconde vie » qui est sortie après et qui correspondait complètement aux propos que je voulais développer. Et après, les autres influences littéraires, je dirais ça a commencé dès mes premières lectures à l'adolescence. Je pense qu'en fait, la question de ce temps court à vivre et de cette unique vie à vivre m'a taraudée très jeune et que j'ai eu des lectures hasardeuses et puis d'autres moins qui sont venues un petit peu nourrir cette obsession-là. Et j'ai eu notamment deux lectures fondatrices. La première était Charles Juliet, un récit autobiographique, je ne sais pas si on peut dire autobiographique, mais enfin un récit qui s'appelle Lambeau, qui est magnifique, où il évoque en fait ses deux mères, sa mère biologique et sa mère adoptive. Et j'ai été particulièrement touchée par la première partie où il évoque sa mère biologique, qui est décédée alors qu'il avait 3 mois. Enfin, il a été lui placé à 3 mois. Et cette jeune, il retrace donc sa vie sans l'avoir connue, hein, mais il parle donc de cet enfant et jeune fille et jeune femme mariée qui n'a pas eu le choix de sa vie, aucune possibilité d'émancipation, aucune possibilité de vivre et d'exister justement, et prise dans des contraintes et des carcans et un sillon et des ornières impossibles à dépasser, au vu aussi de l'époque et de la culture et de l'éducation qu'elle avait. Et donc là, je crois que tu vas nous lire un passage justement où il parle de, à un moment, il y a plus de possibilité pour elle de reprendre l'école. J'avoue, je me rappelle plus exactement pourquoi. Je crois que son père ne veut plus qu'elle doit. Voilà, que c'est une fille, qu'il y a d'autres choses à faire, que l'école est peut-être trop loin. Alors que elle a un instituteur qui déjà a repéré un potentiel. Mais voilà, elle ne peut plus aller à l'école. Et c'est la rentrée et elle y va quand même. Voilà, avec son cartable sur le dos. Je te laisse lire ce passage-là.
Charles Juliet, Lambeau. La veille de la rentrée, tu prépares ton cartable en cachette. Le lendemain matin, avant qu'elle ne descende, tu cours te cacher dans le bosquet qui s'élève à proximité du préau. Plus d'une heure après, tu les vois arriver un par un ou par petits groupes. Les petites se tiennent sagement par la main et avancent sans parler. Tu te reproches de n'être pas passé le voir quelques jours plus tôt pour lui demander s'il serait possible que tu prolonges ta scolarité. L'idée t'en est venue, mais tu n'as pas osé aller frapper à sa porte. Ni cri, ni rire. Leur voix, comme un murmure, avec parfois un mot qui se détache. Ton cœur bat, le sang frappe à tes tempes et tu souhaites éperdument qu'ils viennent te chercher. La cloche. Le bruit mat des sabots gravissant les marches. Le silence qui s'installe. Tu crois entendre des pas. Si violent est ton désir que tu ne doutes pas de le voir apparaître. Les minutes qui s'écoulent. Cette déception quand il te faut admettre qu'il ne viendra pas. Et la honte. Et la peur qui t'envahissent lorsque tu découvres que ce n'était là que folie. Tu t'enfuis. Ton cartable plaqué contre ta poitrine. C'est la première fois que tu as quelque chose que tu réprouves. La première fois que tu vas devoir mentir. En franchissant le pont, tu jettes rageusement ton cartable dans la rivière. Tu ne songes même pas à ce qui t'attend à la maison, accablé par cette évidence que jamais plus tu ne seras une écolière. Puis l'automne, puis l'hiver. L'enfouissement sous la neige. Les lentes journées semblables, le temps comme une inexorable agonie. Gagné par le sommeil de la nature, tu doutes que la neige puisse un jour fondre, le printemps revenir, la nuit réapparaître.
Voilà. Elle est accablée, voilà, elle est accablée et sans possibilité de s'en sortir. Et en fait, sur la fin, donc cette première partie de récit, voilà, elle subit, enfin en tout cas, voilà, plusieurs bébés naissent. Elle est complètement débordée. Elle écrit sur des petits carnets, je crois. Elle écrit beaucoup. Et à un moment, elle est submergée par toutes ces contraintes, par ce quotidien et par cette impossibilité finalement d'exister. Et elle fait une tentative de suicide. Et sur cette période-là, la seule solution qu'on propose, c'est l'enfermement. Et elle finit par mourir de faim dans ce qu'on appelait les asiles. Et ça, parce que ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et on laissait les gens mourir de faim à cette époque-là, dans ces asiles.
Sinon, le roman est très... comment dire ? Il est très lumineux, il est très porteur d'espoir. Enfin,
voilà.
Oui. Là, ça a l'air la partie un peu lourde, mais en fait, il y a d'autres parties au roman et c'est
parce qu'il est
chargé d'espoir.
Il est adopté ensuite, donc il parle après de sa seconde mère adoptive et surtout, en fait, il termine ce récit. Enfin, en tout cas, moi, je l'analyse comme ça. Là, je voudrais pas trop m'avancer, mais après, il parle beaucoup de l'écriture et de son rapport à l'écriture. Et en fait, lui, il a bien fallu aussi qu'il se construise et qu'il existe avec ce manque terrifiant. Et donc l'écriture est un des moyens qu'il a trouvé. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas aussi, ça c'est un parti pris que le personnage prend aussi dans notre pièce. Voilà, l'écriture, la création permet de faire émerger l'existence quand le vivre peut être accablant.
Je crois aussi savoir qu'une autre de tes influences majeures, c'est Simone de Beauvoir.
Ah, Simone de Beauvoir, nous n'en parlerons jamais assez. Alors ça, c'est une lecture que j'ai eue il y a 8 ans, donc c'est finalement assez récent. C'est le premier tome de son autobiographie qui s'appelle « Mémoire d'une jeune fille rangée », où elle explique son enfance, son adolescence, et puis jusqu'à sa rencontre avec Sartre, et je crois même son passage au doctorat de philosophie. Et elle a notamment une relation avec sa meilleure amie qui s'appelle Zaza. Et on suit en parallèle leur parcours. Elles sont toutes les deux issues d'un milieu bourgeois. Le sillon est creusé, hein, on sait ce qu'on attend d'elles, toutes les deux. Simone de Beauvoir, elle, fait le choix de s'affranchir, de faire des études, d'avoir déjà... On voit les prémices de la vie qu'elle aura ensuite, hein, libre, d'une femme libre. Et Zaza, pour elle, ce positionnement est plus compliqué. Et voilà, alors je te laisse lire le passage, je ne veux pas spoiler la fin de ce récit sur Mémoire d'une jeune fille rangée. Voilà, pour Zaza, le fait de ne pas s'affranchir va avoir des conséquences très graves.
Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir. 10 jours plus tard, je la rencontrai par hasard au bar Pocardi. J'avais été lire à la Nationale et elle faisait des courses dans le quartier. Je l'accompagnais. À mon grand étonnement, elle débordait de gaieté. Elle avait beaucoup réfléchi au cours de cette semaine solitaire et, peu à peu, tout s'était mis en ordre dans sa tête et dans son cœur. Même son départ pour Berlin ne l'effrayait plus. Elle aurait des loisirs, elle essayerait d'écrire le roman auquel elle pensait depuis longtemps. Elle lirait beaucoup. Jamais elle n'avait une telle soif de lecture. Elle venait de redécouvrir Stendhal avec admiration. Sa famille le haïssait si catégoriquement qu'elle n'avait pas réussi jusqu'alors à surmonter tout à fait cette prévention. Mais en le relisant ces jours derniers, elle l'avait enfin compris et aimé, sans réticence. Elle sentait le besoin de réviser un grand nombre de ses jugements. Elle avait l'impression qu'une sérieuse évolution venait brusquement de se déclencher en elle. Elle me parla avec une chaleur, une exubérance presque insolite. Il y avait quelque chose de forcené dans son optimisme. Cependant, je me réjouis. Elle avait retrouvé des forces neuves et il semblait qu'elle était en train de beaucoup se rapprocher de moi. Je lui dis au revoir, le cœur plein d'espoir. 4 jours plus tard, je reçus un mot de Madame Mabille. Zaza était très malade. Elle avait une grosse fièvre et d'affreux maux de tête. Les médecins parlèrent de méningite, d'encéphalite. On ne sut rien de précis. S'agissait-il d'une maladie contagieuse, d'un accident ? Ou Zaza avait-elle succombé à un excès de fatigue et d'angoisse ? Souvent, la nuit, elle m'est apparue toute jaune sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort.
Voilà. Donc moi, je l'ai interprété comme ça. J'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec Simone, hein, c'est bien dommage. Mais je l'ai interprété comme ça. C'est un moment si Zaza est prête à finalement sauter le pas et à pouvoir s'organiser un voyage, aller à la rencontre, sortir de l'ornière, changer d'idée, faire des rencontres littéraires. Mais c'est peut-être un peu trop tard. Et elle va finir par mourir. Et moi, m'est venue l'idée que si on n'avait pas la possibilité d'exister vraiment à sa juste mesure, si on était dans le renoncement, ben, il y avait une question de vie ou de mort et qu'on pouvait en mourir. Et c'est vraiment ce qui m'est resté et ce qui m'a peut-être influencée après dans ma propre crise existentielle. C'est-à-dire qu'à un moment, si je ne parvenais pas à vivre ce que j'avais besoin de vivre, j'allais en mourir. Voilà, ce qui peut paraître un petit peu peut-être excessif, abusif, mais voilà, je l'ai interprété en tout cas comme ça.
Merci beaucoup. Et maintenant, je vous propose une pause musicale.
De mauvaises herbes insoumises, les ardes, les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown et tous les mois, c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star. À l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, souvent sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'audimat. Du pain et des jeux pour calmer les ventres creux. Du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous, à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. À trop courir après mes rêves. À force des courbes se dessinent sous mon regard sonifère. J'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elle m'invite au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage. J'ai peur, je cours, je veux d'autres odeurs pour mes narines. Je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre. La poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre. Quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre. J'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves. Et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive loin au large. J'ai vu mon île, tu sais. Touché au but, j'y vais enfin, j'essaie. Des paquets de rimes pour que mon âme affleure. Je veux faire des victimes avec des armes à fleurs. Je ralentis le pas, je reprends mon souffle, parfois. Et il y a mes rêves qui tardent, face au cadran qui tourne. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. Après mes rêves.
D'entendre À trop courir de Gaël Faye.
Voilà, un jeune auteur compositeur, poète contemporain. Et ce morceau-là, je l'apprécie particulièrement. À un moment, il dit « À trop lire, vous allez finir par exister comme une sorte de menace. » Et puis aussi « À trop courir, je risque de me mettre en danger. Le cœur risque de flancher. » Et je trouvais que c'était bien vu dans notre thématique.
Alors, tu as beaucoup parlé d'influence, notamment philosophique. Tu dis que ton texte est une écriture poétique, mais du coup, tu choisis le théâtre.
Oui.
Du coup, et pourquoi ?
Et j'ai parlé aussi beaucoup de littérature aussi, et j'en ai oublié certains. Il y a André Gide, il y a François Mauriac, voilà, il y en a d'autres qui m'ont inspirée. Alors, pourquoi le théâtre ? Déjà, alors... très sincèrement, écrire c'est un vrai plaisir, c'est aussi une vraie frustration parce que on écrit de son côté, on donne le texte aux autres, ils le reçoivent à leur manière chez eux, et on a très peu de retours, et c'est finalement assez frustrant. Donc j'avais cette envie-là de pouvoir avoir un retour sur ces écrits-là. En premier lieu, j'avais envie d'interpréter des textes poétiques. Je me suis rendu compte que j'avais pas forcément la compétence, le savoir, l'expérience pour moi me mettre en scène. Ça ne s'invente pas. Et puis, il y a eu aussi, pourquoi ce texte-là en théâtre ? C'était aussi lié au sujet. En fait, je parle voilà, de la crise, de l'existence, de quelque chose qui, pour moi en tout cas, s'est vécu de manière très forte dans le corps, physiquement. J'ai été terrassée par des crises de panique et des crises d'angoisse, et le corps a été éprouvé. Donc le mettre sur papier était déjà un soulagement, une satisfaction, mais n'était pas suffisant. Et très rapidement, je me suis dit, il faut que le corps puisse participer à ça. Et alors, aussi connaissant ton travail, Emmanuel, sur le théâtre organique, j'y ai fait lien, j'ai dit, voilà, peut-être qu'Emmanuel pourra m'aider à mettre ce texte en corps.
Et au départ, tu voulais le jouer ?
Alors au départ, je voulais le jouer parce que j'ai toujours rêvé de d'écrire des textes avec des amants dans le placard, de rencontrer Simone de Beauvoir. J'aurais adoré être sur scène, hein, voilà. Mais on peut pas tout faire. Il aurait fallu que je travaille ça peut-être un peu plus tôt. Et l'investissement physique que ça demande, il faut que je fasse ça maintenant pour un spectacle qui sortirait dans 5 ans, et je suis pas sûre d'avoir la patience. Donc, je préfère te demander à toi de faire ce travail-là. Voilà. Donc, j'ai décidé que finalement, je ne serai pas sur scène. Ou alors peut-être je ferai comme Hitchcock, un passage. Tu m'autoriseras, ça veut dire que je traverserai la scène à un moment. C'est en cours de création, hein, je vais négocier ça. Pour avoir mon quart d'heure de gloire, mais mes 15 secondes.
Ça marche. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter un nouvel extrait du texte de Gaëlle, et cette fois accompagné de la musique de Jacques Joly, qui va accompagner tout ou une partie du spectacle.
Oui, parce qu'il y aura d'autres musiciens, il y aura une autre d'autres compositions, donc par Rémi Giacometti et Christophe Machrac.
Je le sens. Je le sais, il n'y a pas de rêve en vain, juste un réel radin, la vieillesse comme dernier ravin, laissant si peu de preuves de nos désirs d'outrance, de notre existence. Ne jamais te lasser et cesser de chercher. Et qu'on me tape sur le front, que l'arbre ne tienne plus à son tronc, que la ville n'émette plus un son. Je n'y peux rien, c'est à bout de bras que je tiens les racines du ciel qui nous abrite. Devant nous, il y aura des passants pour passer. Du temps passé à pousser en avant le matin froid et jaune du soleil, en proie aux brumes de la veille. N'attendons pas d'être abasourdis, le cœur battant aux brides abattues. Entends-tu mon cœur battre aux brides abattues, à bâtons rompus, bombe, bombe, badabombe. Quand vivre ne suffit pas, exister m'embrase. À choisir, je préfère courir le feu dans les jambes. Espérer la chute, la cassure franche de la branche sur la pente abrupte. Courir, le feu dans les jambes. Préférer les mots écarlates, à cran, prêts à dérouiller, les corps brimés, les bords brisés. Parce que je le sens, je le sais, le jour viendra. Au bout de cette nuit, renaîtra le ciel encastré entre les immeubles étroits. Cette nuit finira, le jour viendra. Au bout de cette nuit, renaîtra les rues occupées par des hommes aux angles droits. Cette nuit finira, le jour viendra. Au bout de cette nuit, renaîtra le ciel plissé, le soleil taillé en brun. Cette nuit finira au petit matin. En proie aux insomnies, je danse sur les toits de vos nuits, à saute-mouton sur vos lits immobiles. Je compte d'un à mille la crevaison de vos rêves fragiles. Sous un ciel cire, je prévois le pire. Viens à présent la lumière dans chaque âme qui vive. Cœur et corps de pierre dont le feu avive la flamme collective.
On a laissé un petit peu la musique couler au-delà du texte, parce que c'est très beau. Et c'est écrit par Jacques Joly, c'est une composition du groupe Crystal Dinosaur, basse batterie.
Merci. On a dit au début de l'émission qu'en fait, ton écriture était en cours. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es quand même arrivé à cette endroit là d'écriture, et puis c'est quoi une écriture en cours et comment tu la poursuis du coup?
Alors au départ, cette écriture a commencé en fait il y a plusieurs années, j'écrivais des textes poétiques indépendants les uns des autres, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'ils avaient un lien tous sur la thématique, donc justement sur l'existence, sur l'angoisse d'exister ou l'exaltation. Il y a un moment, il y a eu une évidence qu'il y avait un lien entre ces textes, donc j'ai pensé à un livre. Vrai, j'ai pensé à différentes choses, puis bon, après est venue cette idée donc de pièces. Donc c'était un petit peu décousu comme processus d'écriture, et ça l'est encore aujourd'hui, et tant mieux. Donc parce qu'on écrit en plateau, donc avec toi Emmanuel, ça veut dire que j'ai une base, j'ai des blocs. Par rapport aux sous-thématiques qu'on veut développer, et puis après on voit sur le plateau si ça correspond, si on doit transformer, si on doit réajuster, compléter ou supprimer des parties. Alors ça va te permettre, toi Emmanuel, de nous expliquer un petit peu ce que c'est que le théâtre organique et l'écriture en plateau.
Alors effectivement, l'écriture en plateau, c'est l'idée que l'auteur ou l'autrice est présent présente au moment des répétitions, et du coup le texte s'élabore collectivement à la fois sur la scène et derrière un ordinateur en l'occurrence au fur et à mesure, et qu'en fait ça se constitue d'échanges. Donc typiquement hier on était en répétition, on a dit bon bah on va commencer sur cette séquence là donc voilà, on commence, et puis au bout de, je sais pas, à peu près 15 secondes, je m'arrête, je dis ah mais là on pourrait faire ça comme ça. Alors Gaëlle, elle fait ah bah oui, du coup on pourrait faire ça comme ça, attends je modifie le texte. Donc tu modifies le texte, et puis moi je dis oui mais en fait ça pourrait, hop hop hop, et en fait c'est un échange constant. Donc les premières répétitions se font beaucoup dans la parole, beaucoup dans qu'est-ce qu'on pourrait faire, ah oui ça me fait penser à ça, etc etc, et du coup voilà, on va élaborer petit à petit. Donc les premières répétitions ne ressemblent pas du tout à des répétitions classiques. La base du texte n'est pas, est un matériau comme un autre.
Voilà, on est peut-être moins dans la répétition et plus dans l'élaboration finalement.
C'est ça. Et le lien avec le théâtre organique, eh bien, c'est que le théâtre organique sort de ses répétitions dites classiques. Même si le texte avait été élaboré avant et si Gaëlle était venue en disant « Bon, bah, tu dis ça », un, je pense que je ne l'aurais pas fait, et deux, ça reste une recherche constante. Et la recherche principale du théâtre organique, c'est de chercher du vivant, que moi je trouve manque beaucoup actuellement sur les scènes de théâtre. Et donc, bah, il s'agit d'aller casser les répétitions dans ce qu'elles peuvent avoir d'habituel, de classique. Et ça rejoint du coup complètement le texte, ton texte, Gaëlle, parce qu'il s'agit de casser des ornières, casser le chemin qui a été tracé, voilà, une répétition ou un spectacle, ça se fait comme ça, de telle façon, dans tel timing, avec telle personne. Il y a des choses à faire dans un certain ordre, etc. Et au théâtre organique, justement, on est plutôt à essayer de voir ce qui se passe. Donc il y a un texte qui est amené, donc on réagit à ce texte-là, en parole, ça peut être physiquement aussi, ça peut être de plein de façons différentes. Et voilà, et on réagit à ce qui se passe. Et petit à petit, c'est la succession des réactions qui fait spectacle, qui crée, qui fait création, et qui du coup laisse à la fois une trace pour toutes les personnes qui l'ont élaboré, et qui va, on l'espère, laisser une trace sur le spectateur.
Et effectivement, ça rejoint véritablement la thématique. On est dans l'éphémère, dans un constant déséquilibre, dans rien d'acquis, on capitalise rien du tout. Et on construira jusqu'à la veille au soir, on construira avec le public, avec sa réaction, le jour J, avec la chaleur de la salle, la température, les rires, ou l'énergie.
Ou les crises de désespoir, parce que ça peut susciter, avec le sujet.
Voilà, on n'espère pas trop, mais voilà, l'énergie du moment.
Mais l'idée, voilà, c'est d'être dans la réactivité et de faire avec ce qui est là. Et ce qui n'est pas là, ce qui n'a pas été répété, sera peut-être créé ou pas. Et même ce qui a été répété peut ne pas être créé au moment de la représentation. En fait, c'est libre, en fait. On cherche cette liberté-là.
Avec bien sûr une base rassurante. On ne va pas faire de l'improvisation pure et dure, hein, on est bien d'accord. C'est et puis ça. Le texte et le squelette. On a cette base-là.
Exactement. On vous lit un dernier extrait du texte de Gaëlle, qui pour l'instant a un titre provisoire, qui s'intitule...
Alors, du cœur battant aux brides abattues.
La voilà, l'issue de secours. La voilà, l'issue de secours à l'insu du compte à rebours. C'est une porte qui claque dans le dos. Des gens à quitter. Une fois dehors, on les entend qui parlent encore, de qui fera quoi, de qui est quoi, de ce qui doit être et de ce qui ne l'est pas. On les entend qui parlent encore. Moi, je préfère le feuillage secoué par le vent, l'écho de la récréation des enfants, la musique, les basses, le corps tremblant, l'exultation de ne jamais s'affaisser. Écrire chaque mot pour le dire, les choisir, ne laisser aucune parole en l'air. Résister. Et murmurer. Si ce n'est que cet instant, c'est suffisant. Le cœur battant, les brides abattues, le prochain rayon de soleil, il est pour moi. Et l'ombre, je ne l'éviterai pas. Le prochain rayon de soleil, il est pour moi. La voilà l'issue de secours. La voilà l'issue de secours à l'insu du compte à rebours. Écrire chaque mot pour le dire. Ne laissez aucune parole en l'air.
Sur un fil qui devra se casser demain. courage au fond de nous, si c'est pour oublier et mettre toutes nos passions à genoux, si c'est pour marcher droit sur un chemin déjà bien dessiné, si c'est pour mettre nos pas dans ceux qui l'auront un jour décidé, c'est pas la peine. Redoutable et si dangereux, comme danser sur du feu, qui met cette lumière dans nos yeux. On est tous nés pour être heureux, merveilleusement heureux. Si c'est pour désespérer, de faire vibrer la fête qui est en nous, de pouvoir la faire chanter, calmer tous nos rêves cruels et fous. Et si nos cœurs doivent respirer comme les battements des montres à nos poignets, si nos mains ne peuvent laisser que la trace qu'un autre aurait pu laisser, c'est pas la peine. Redoutable et si dangereux, danser sur le feu, qui met cette lumière dans nos yeux. On est tous nés pour être heureux, merveilleusement heureux.
Vous venez d'entendre Michel Berger et « C'est pas la peine de vivre ».
Qui rentre totalement dans notre thématique. Hein. Si c'est pour suivre le pas des autres, c'est pas la peine de vivre.
Gaëlle, tu voulais nous lire un extrait de François Julien.
Voilà, le fameux philosophe dont on s'inspire. Et c'est donc la fin de son ouvrage « Vivre en existant » qui résume, je trouve, bien son propos. Et le propos donc de notre pièce. On peut avoir vécu sans avoir existé, sans avoir commencé d'exister ou si peu. Ne pas avoir existé signifie ne pas avoir émergé de son appartenance de fait au sein du monde, désadhérence dans lequel sa vie, sa pensée reste prise. N'avoir vécu que sous cet horizon bas, autant dire n'avoir pas même envisagé la possibilité d'autres possibles. Ne pas s'être même enquis de ce que la vie puisse être radicalement différente de ce qu'on en attendit. Car cette foi est bien la seule foi. Cette vie est la seule vie, ce moment, le seul moment. Et c'est de ce que cette seule foi, cette seule vie, suffit comme telle qu'on sait que son possible s'est effectivement déployé, qu'elle a effectivement existé. Même si elle est tôt oubliée ou demeurée ignorée, vivre s'épuise, exister, acquis, atteint, l'est à jamais.
Merci. Alors, pour aller vers la fin de cette émission, est-ce que tu peux nous parler des perspectives pour ton texte? Quand est-ce que ça va être joué? Quand vous en êtes où?
Alors, nous en sommes... Il y a déjà... je ne suis pas toute seule, donc je suis avec toi, Emmanuel, comédienne et metteur en scène avec le Théâtre Organique. Je travaille donc avec trois compositeurs. Je les recite, hein, Cristal Dinosaure, Jacques Joly, Christophe Machrach, Rémi Giacometti. Il y a aussi un travail sur la vidéo qui va être fait aussi par Rémi Giacometti. Des éléments du décor par Maria Berlioz. Je crois, j'espère ne n'oublier personne. Donc voilà, donc ce travail se fait à son rythme avec toutes ces personnes-là. Je me dis, j'espère que d'ici quelques mois, on aura de quoi nous présenter de manière satisfaisante. On peut se dire peut-être l'année prochaine, début 2019. J'aimerais bien qu'on puisse jouer sur des petits théâtres, puisqu'on est quand même dans le domaine de la confidence, et qu'il me semble que c'est plus approprié. On est aussi très soutenu par la MJC Mon Plaisir pour des répétitions, donc pourquoi pas quelques répétitions là-bas.
Voilà. Quelques représentations.
J'ai dit
répétitions.
Ah bah oui. Donc on a fait des répétitions et donc on fera des représentations peut-être là-bas. Voilà, on peut dire aussi que on va, pour ceux qui sont intéressés, on espère que vous êtes très nombreux par ce projet. Et nombreuses par ce projet, on vous tiendra au courant donc sur le site internet du théâtre de la Gamelle, sur le site internet le penser, le dire, l'écrire.com et via Facebook du théâtre de la Gamelle,
du théâtre organique.
Voilà,
donc on espère vous donner rapidement des nouvelles, des petites vidéos, des petits audios aussi. Vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine cette émission sur le site internet du Théâtre de la Gamelle ainsi que sur celui du Théâtre Organique si vous souhaitez la réécouter ou si vous souhaitez la faire écouter à vos amis. Merci Gaëlle.
Merci à toi Emmanuel.
D'être venue parler de ce travail en cours. C'est pas facile puisque justement il est en cours, mais voilà, je trouve que tu nous en as très bien parlé. Je dis pas que ça parce que je suis partisane. Je trouve que c'était une très belle émission, je te remercie et puis j'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir pour parler des dates de représentation de ce spectacle.
Très bien, et je te remercie.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oh, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.